Est-ce que vous avez des questions sur la semaine dernière? On va passer pour après. Hein. Vous en avez plusieurs? Merci. Marchand d'hommes, oui.
Sinon, c'est l'expression « il s'est appelé marchand d'hommes ». Il s'est appelé. Il semble que c'est un vocabulaire.
Oui, certainement, une sorte de cabinet de recrutement. Recrutement. Oui, privé, bien sûr. Ça ne peut pas être public, hein. Donc il a ouvert un petit bureau, comme ça, dans une rue, dans un appartement. Et certainement, il y avait dans chaque ville quelques personnes qui faisaient ce genre de travail de façon à peu près officielle. À peu près officielle. C'est pas officiel, puisqu'il n'y a pas d'autorisation. En même temps, il n'y a pas non plus d'interdiction. C'est simplement un agent qui met des personnes en relation. Donc, il n'y a pas d'interdit. Ensuite, ça dépend qu'est-ce qu'il propose, c'est-à-dire quelqu'un riche qui a tiré un mauvais numéro, il souhaite donc qu'une autre personne prenne sa place. Donc, il va voir cet agent, ce marchand d'hommes. Et il lui dit, voilà, je dois commencer à telle date, est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un qui peut prendre ma place? Alors, l'autre demande, peut-être, hein, j'imagine, hein, combien vous voulez payer, ou alors il lui indique des tarifs, peut-être déjà décidés. J'ai pas d'informations très détaillées sur ce sujet, mais bon, on peut imaginer comme ça. Et ensuite, le marchand d'hommes va, à travers un réseau de relations, dans des quartiers certainement plus pauvres, essayer de trouver quelqu'un qui a l'âge, qui a une certaine force aussi, parce que c'est pas la peine d'envoyer un malade ou quelqu'un de faible et qui accepterait. Et le marchand d'hommes garde une commission, c'est-à-dire 10, 15, 20% de ce que le mauvais numéro a payé. De cette façon, tout le monde trouve son intérêt. Donc il n'y a pas d'interdiction. Et donc en effet, c'est une sorte d'établissement. Bon, c'est pas une industrie, c'est pas un grand magasin, mais un petit cabinet.
Okay. Tu es officiel.
Oui, enfin, pas interdit. Pas interdit, hein. Mais c'est pas organisé par le gouvernement. Donc c'est pas officiel au sens de service de l'État. Évidemment. L'État a simplement organisé la loterie. Ça, ce sont des questions de culture et d'histoire qui sont assez difficiles parce que à l'époque, il n'y a peut-être pas eu énormément de documents qui sont restés et il faut chercher dans les travaux de spécialistes, d'historiens, ce que je n'ai pas eu le temps ou le loisir de faire, mais ce serait un sujet très intéressant. Et on le trouve mentionné comme ça par des romanciers, comme si c'était une chose naturelle que tout le monde connaissait. Évidemment, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. D'autres questions ? Alors, pour aujourd'hui, je vous propose d'étudier le chapitre 3, à peu près entièrement. Encore, celui-ci n'est pas très long. Nous pouvons le suivre tranquillement. Alors, où est ce chapitre ? Le chapitre commence par 2 mois plus tard. Et en effet, c'est exactement la correspondance de ce qui était annoncé dans les premières lignes du premier chapitre, lorsqu'on nous disait qu'il revenait du Havre, qu'il retournait chez sa mère, où il devait attendre 2 mois, hein, en bas de la page 19, l'avant-dernière ligne, il devait languir, attendre au sens un peu négatif, pendant 2 mois, avant d'aller faire son droit. Faire son droit, donc en italique, bonjour madame, au sens classique de faire son droit, faire des études de droit. Vous voyez, on place ici, peut-être voilà, écarter un peu les tables. Donc le voici maintenant à la page 39, 2 mois plus tard, Frédéric débarquait un matin rue Coq-Héron, songea immédiatement à faire sa grande visite. Alors, la rue Coq-Héron, vous avez une petite note, très gentille, située rive droite, donc au nord de la Seine, près de l'ancien quartier des Halles, où se trouvait le terminus des diligences. Donc, en quelque sorte, la gare routière. Et il songea immédiatement à faire sa grande visite. Alors, si on est obsédé par Madame Arnoux, on pense à cette visite-là, mais en l'occurrence, c'est la suite de ce qui était à la fin du chapitre 2, c'est-à-dire la conversation avec des lauriers sur, disons, le moyen de réussir, hein, la promotion sociale, et il s'agissait beaucoup plus pragmatiquement de visites chez les Dambreuses, où il y aurait un intérêt véritable pour s'installer et se faire des relations. Donc, l'explication vient d'ailleurs juste après. Le hasard l'avait servi. Le père Roch était venu lui apporter un rouleau de papier en le priant de les remettre lui-même chez M. D'Ambreuse. Et il accompagnait l'envoi d'un billet décacheté où il présentait son jeune compatriote. Donc, évidemment, dans le village de Nogent, tout le monde était plus ou moins au courant du départ de Frédéric pour Paris où il doit faire ses études et mis au courant, M. Roch a pensé qu'il pouvait servir de commissionnaire hein, simplement pour apporter des documents à M. D'Ambreuse. Donc là, quelque chose de relativement simple et logique, mais qui intéresse M. Roch pour donner ses documents, et qui, bien sûr, intéresse Frédéric. Donc, le hasard l'avait servi. Madame Moreau parut surprise de cette démarche. Frédéric dissimula le plaisir qu'elle lui causait. On a ici 2 attitudes différentes qui sont le résultat de 2 mentalités différentes. Nous savons que Madame Moreau est très religieuse, très morale, et elle n'apprécie pas le père Roch à cause de son mode de vie, sa façon de vivre, comme on a dit au chapitre précédent. En revanche, Frédéric se moque un peu de cette situation du père Roch et il voit son intérêt direct dans la possibilité d'aller chez les D'Ambreuse. Parce que, on le verra à différentes reprises, pour un jeune homme qui arrive à Paris, aller chez une personne importante n'est pas une chose facile. D'abord, lorsque vous frappez à la porte ou vous sonnez à la porte, ce sont des domestiques qui vous ouvrent et vous n'avez aucune chance d'atteindre une personne importante si vous n'avez pas une bonne raison d'y entrer. Alors, des bonnes raisons, il n'en manque pas, mais encore faut-il en avoir au moins une relation familiale, une relation d'affaires, Et ma foi, presque tout le reste est repoussé. Ce sont des quémandeurs, des quêteurs qui viennent demander quelque chose et que l'on repousse à la porte. Alors, aujourd'hui, nous avons des codes électroniques qui remplacent les domestiques et le but étant de ne pas être en contact direct avec n'importe qui arrive par la rue. Donc, même si Frédéric pouvait se proposer d'aller voir Monsieur D'Ambreuse avec la vague raison d'être en relation par Monsieur Roch, hein, c'est une relation trop légère pour justifier sa démarche. Il faut absolument quelque chose de plus important. Alors, la possibilité d'aller chez les gens. Également pour cette raison, il existait des cartes qu'on appelle cartes de visite. Au Japon, ça correspondrait au Meishi. Et ces cartes de visite étaient plus grandes. Il en est beaucoup question jusque chez Proust, hein, et encore après, bien sûr. Et lorsqu'on allait chez quelqu'un, on n'était pas sûr, bien sûr, de trouver cette personne disponible. Donc on écrivait un petit mot sur la carte, on la donnait au domestique, qui la portait. Vous avez peut-être vu ça dans des films, hein, sur un plateau, comme ça, on apporte la carte. Et, ah, c'est un tel, non, je ne veux pas le voir. Dites que je suis sorti, ou bien faites-le entrer. Hein, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Et pour cette raison, d'ailleurs, les cartes n'étaient imprimées que d'un seul côté, et en général, il n'y avait que le nom. Hein, donc, pas du tout, cette fois, très loin de la meishi japonaise, qui est une fonction professionnelle, et parfois écrite des deux côtés, notamment lorsqu'on est bilingue, pour être pratique. Mais ça veut dire qu'on ne peut plus écrire dessus. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, donc ces traditions, hein, ces éléments de vie de l'époque. Monsieur D'Ambreuse s'appelait de son vrai nom le comte D'Ambreuse, mais dès 1825, abandonnant peu à peu sa noblesse et son parti, il s'était tourné vers l'industrie et, l'oreille dans tous les bureaux, la main dans toutes les entreprises, à l'affût des bonnes occasions, subtil comme un grec et laborieux comme un auvergnat, il avait amassé une fortune que l'on disait considérable. De plus, il était officier de la Légion d'honneur, membre du Conseil général de l'Aube, député pair de France un de ses jours. Complaisant du reste, il fatiguait le ministre par ses demandes continuelles de secours, de croix, de bureaux de tabac, et dans ses bouderies contre le pouvoir, il inclinait au centre gauche. Sa femme, la jolie Madame D'Ambreuse, que citaient les journaux de mode, présidait les assemblées de charité. En cajolant les duchesses, elle apaisait les rancunes du noble faubourg et laissait croire que Monsieur D'Ambreuse pouvait encore se repentir et rendre des services. Il s'agit donc pour un couple, Monsieur et Madame D'Ambreuse, d'une entreprise sociale. Une entreprise sociale qui est le résultat d'un arrangement stratégique et qui n'est pas lié au hasard. On verra beaucoup de hasard dans le roman, mais chez des gens comme les D'Ambreuse, il n'y en a pas, ou pas en tout cas dans la présentation que nous fait Flaubert. D'abord, l'origine de M. D'Ambreuse est noble, mais, contrairement à beaucoup de romans où quelqu'un qui n'est pas noble prétend qu'il l'est pour mieux arriver à quelque chose, ici c'est le contraire, quelqu'un qui est noble fait mine, fait semblant, se considère comme ne l'étant pas, pour, bien sûr, avoir plus d'accès aux activités, aux affaires de son époque. Et donc, on note que à partir de 1825, hein, c'est-à-dire vraiment au début de l'industrialisation en France, quelques années après la fin de la Révolution, lorsque les affaires deviennent le meilleur moyen de s'enrichir, plutôt que les terres, les cultures ou d'autres formes de commerce. je disais une entreprise en quelque sorte familiale, en tout cas pour un couple, parce que pendant que M. Dambreuse se comporte, agit d'une certaine façon, Mme Dambreuse fait partie de cette équipe et elle aussi, elle participe à sa façon. À la façon d'une femme de l'époque, c'est-à-dire pas engagée dans les affaires, mais engagée dans d'autres activités. Comme aujourd'hui, des personnes très haut placées peuvent avoir une activité politique, par exemple, pour l'époux, et pour la femme, une activité qu'on appelle aujourd'hui caritative, ou représentative d'associations, de différentes choses qui ont une valeur positive dans la société. Je ne nomme personne, puisque c'est le cas de beaucoup de couples politiques, par exemple. Alors, M. Dambreuse, donc, est toujours, en réalité, comte. Hein, donc, c'est une très haute position dans la noblesse. Et pendant qu'il se comporte comme quelqu'un qui serait un bourgeois, un grand bourgeois, pas noble, qui réussit par ses affaires, par son travail, de son côté, sa femme s'occupe à, comme on dit ici à la page 40, d'abord apparaître comme une image, aujourd'hui on dirait une icône de mode, un modèle pour d'autres femmes, en étant dans des journaux de mode, donc citée dans des journaux de mode. On indiquait donc tel jour, Madame Dambreuse portait telle sorte de robe ou de chapeau, et d'autres dames vont ensuite aller chez les marchands connus de Madame Dambreuse, les fournisseurs, en disant bon, ben, moi aussi je voudrais ceci ou cela. Donc c'est une forme, disons, préhistorique de la mode comme on la connaît aujourd'hui par les magazines ou la télévision. Présidait les assemblées de charité, donc comme je disais tout à l'heure. Et dans quelle intention? Donc la phrase suivante est très intéressante. En cajolant les duchesses. Donc cajoler, ça veut dire en quelque sorte calmer d'un chagrin. Hein, on utilise surtout pour les enfants. On va cajoler un enfant, on va cajoler un bébé qui est un peu triste, qui a eu un petit problème, et on va lui parler gentiment, on va lui promettre quelque chose, et il va revenir à une meilleure humeur. En cajolant les duchesses, qui sont donc d'autres personnalités nobles, bien sûr, en général concentrées dans le faubourg, qu'on appelle le faubourg Saint-Honoré, hein, qui est le quartier par excellence, disons, noble de Paris, même s'il y en a dans beaucoup d'autres quartiers. Et donc, le noble faubourg, c'est plutôt celui-ci, hein, Faubourg Saint-Honoré, entre la Madeleine et la Concorde, hein, à peu près, pour vous situer. Et donc, pendant ces conversations avec des duchesses ou d'autres femmes nobles, Madame Dambreuse laissait croire que M. Dambreuse pouvait encore se repentir, comme s'il avait commis un crime, il va se repentir, c'est-à-dire revenir à sa situation véritable de noble et rendre des services. Donc c'est une sorte de lobbying, comme on dit aujourd'hui, hein, utiliser des lobbies, des groupes d'influence du côté des femmes, lobbying indirect. Alors pour M. Dambreuse, donc à la page 39, j'ai fait le plus facile en premier, hein, Madame d'abord, honneur aux dames. Donc il s'était tourné vers l'industrie. Alors comment on fait ça? Eh bien, on ne va pas travailler dans les usines. Hein. Tout se passe dans des salons et dans des bureaux. Il s'agit d'investir de l'argent, il s'agit de bien choisir ses relations, de signer des contrats, de promettre, d'emprunter, etc., etc. Et on commence de cette façon à faire des affaires. Pour cela, il faut être bien informé, comme aujourd'hui on utilise par exemple les informations de la bourse, hein, Stock Exchange, pour savoir ce qu'il faut acheter et réfléchir à la possibilité de faire de bonnes affaires. À cette époque, il faut avoir l'oreille dans tous les bureaux. L'oreille dans tous les bureaux, c'est-à-dire la possibilité d'être informé par quelqu'un directement de bouche à oreille d'informations très importantes avant même qu'elles soient dans les journaux ou des informations qui ne seront jamais dans les journaux. Alors, aujourd'hui, si par exemple des dirigeants d'entreprises ou des financiers s'échangent des informations qui ne sont pas publiques, on considère cela comme un acte criminel. Ça s'appelle un délit d'initié. Et donc si quelqu'un a vendu des actions ou acheté des actions avant que l'information soit publique, on se méfie et on va vérifier dans ses activités parce qu'on suppose qu'il y a eu une information à l'avance, donc une sorte d'initié qui a permis de faire d'importants bénéfices. Vous voyez qu'à cette époque, c'est une chose tout à fait naturelle, et je pense encore aujourd'hui, hein, il faut arriver à prouver qu'il y a délit d'initié, mais dans beaucoup de cas, l'information doit circuler entre les personnes et sans doute continuer à favoriser les affaires, peut-être pour le bien de tous, dans des cas très nombreux. L'oreille dans tous les bureaux, donc des informateurs, hein, de bouche à oreille, la main dans toutes les entreprises. Alors la main dans toutes les entreprises, la main c'est au sens de l'activité, l'action. Et l'action peut être aux deux sens du mot, c'est-à-dire aussi l'action qu'on achète, hein, le morceau de papier qui vous donne une certaine part, même très faible, dans cette entreprise. En effet, le fait d'avoir ne serait-ce que 1% ou 0,1% d'une entreprise vous transforme en actionnaire et surtout vous donne la possibilité de recevoir toutes les informations que l'entreprise doit diffuser à ses actionnaires pour la gestion de l'entreprise. Donc avoir la main dans toutes les entreprises, c'est un moyen aussi d'être informé directement. En même temps, nous pouvons aussi entendre entreprise au sens strict d'une entreprise, d'une activité, et au sens plus large des choses qui sont entreprises, des choses qui sont en train d'être faites. Alors, ce sont des préparations de plans pour industrialiser une région, pour exploiter de nouvelles possibilités, etc., etc. Et donc, à l'affût des bonnes occasions, là, il s'agit de décider à un moment opportun, au bon moment, d'acheter ou de vendre quelque chose. Suivent deux clichés ou deux stéréotypes. Ça va, tout le monde connaît le mot stéréotype, formé sur des comparaisons, comme il en existe, je crois, dans tous les pays, et généralement reposant sur une certaine vérité, mais qui ne représente pas tout un peuple. Lorsqu'on dit subtil comme un grec, c'est assez positif, dans le sens où subtil c'est plutôt bien, mais il n'est pas du tout certain que tous les Grecs soient subtils. Donc c'est plutôt quelques Grecs subtils qui se sont fait connaître, de même que laborieux comme un Auvergnat, donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup comme un Auvergnat, là aussi on peut penser que tous les Auvergnats ne sont pas laborieux, mais une certaine image existe. Alors pour les Grecs, je ne sais pas très bien d'où vient cette image, sans doute le commerce international maritime, que les Grecs connaissent depuis très longtemps. En revanche, pour les Auvergnats, c'est plus clair, puisqu'on sait que c'était une région où il y avait assez peu de développement. Je ne voudrais pas dire du mal aujourd'hui, mais enfin, c'est encore une région qui n'est pas à la pointe du développement en France, mais qui est tout de même une très belle région, hein, que je vous conseille pour les vacances. Et alors, les Auvergnats devaient venir à la ville s'employer, où ils devaient travailler beaucoup. Donc, un peu comme au XXe siècle, les immigrés algériens ou d'Afrique du Nord, dont on disait « Ah là là, qu'est-ce qu'ils travaillent bien, qu'est-ce qu'ils travaillent beaucoup !» Et oui, parce que, de toute façon, ils n'ont pas d'autres moyens de survivre. Donc, Auvergnat dans ce sens. Et le résultat, eh bien, c'est qu'il avait amassé une fortune que l'on disait considérable. Ce qui veut dire que personne ne sait exactement le montant d'une fortune, ce qui est enfin, tout à fait normal. Hein. Peut-être aujourd'hui, on essaye plus de savoir la fortune des gens, mais ça reste difficile. Suit dans la même phrase, séparée par point-virgule, donc cette grande phrase fait une sorte de portrait par accumulation d'informations, énumération. On passe maintenant aux fonctions, disons les fonctions officielles. Alors, officier de la Légion d'honneur, membre du Conseil général, député, pair de France un de ses jours. Donc ça, c'est une promesse d'avenir, peut-être, ou un souhait, ou une logique, tout simplement, du développement. Alors d'abord, officier de la Légion d'honneur. Vous avez sans doute entendu parler déjà de la Légion d'honneur. C'est un ordre basé sur le mérite de certaines activités, de certaines entreprises, qu'elles soient militaires, industrielles ou autres, culturelles par exemple. Et cet ordre de la Légion d'honneur, c'est son nom officiel, a été institué en 1802 par Napoléon Bonaparte. En effet, après avoir, fait disparaître les rangs aristocratiques, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une nécessité que des gens soient récompensés ou qu'ils soient hiérarchisés pour le développement du pays. Et on a transformé, c'est le résultat de la Révolution aussi, hein. On est passé d'une situation de hiérarchie aristocratique, donc traditionnelle, à une situation basée sur les mérites personnels et pas nécessairement la naissance. Donc si on avait produit quelque chose de fantastique, on pouvait être inscrit dans l'ordre de la Légion d'honneur. Alors cela donne lieu, encore aujourd'hui, puisque ça existe, hein, à des nominations, cérémonies, pendant lesquelles on vient vous accrocher un petit ruban. En général, il y avait à peu près 50% de militaires, pour des actes militaires bien sûr, d'autres comme des policiers, des pompiers, qui ont sauvé des gens. Et puis, progressivement, donc des capitaines d'industrie, comme on dit, hein, des entrepreneurs, et des personnalités culturelles. Alors, il y a plusieurs niveaux. On commence chevalier, après on peut être grand croix, maître, comme ça il y a quatre niveaux, je crois. Et alors, c'est aussi un ordre intéressant parce que beaucoup de personnalités célèbres l'ont refusé. Et la Légion d'honneur est aussi célèbre par, disons, son existence depuis deux siècles que par les noms des gens qui l'ont refusé et les raisons et les paroles qu'ils ont pu avoir à cette occasion. Par exemple, Lafayette, Nerval, Georges Sand, Littré, le dictionnaire, hein, Courbet, le peintre, Pierre et Marie Curie, Bernanos, donc là on passe au XXe siècle, Marcel Aimé, Sartre, Jean-Paul, Beauvoir, Simone, Camus ont refusé la Légion d'honneur. À chaque fois, plus ou moins, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire ne reconnaissant pas cette hiérarchie et cette obligation d'entrer, en quelque sorte, dans les ordres de l'État. Un chanteur plus récent qui s'appelle Léo Ferré en a fait une chanson, et dans cette chanson, il parle de la Légion d'honneur en l'appelant « ce ruban malheureux et rouge comme la honte ». Ah, c'est assez dur. Et en 1997, un écrivain, Bernard Clavel, déclare qu'il préfère rester dans le clan de ceux qui l'ont refusé. Dans le clan de ceux qui l'ont refusé. C'est-à-dire, des gens ont refusé, puis petit à petit, ça fait une sorte de groupe, de clan, comme ça, qui est presque aussi fort que ceux qui l'ont accepté. Bon, vous trouverez une notice dans Wikipédia en français, où j'ai pris ces 3-4 informations, qui est très bien faite. Dans Wikipédia, on ne sait jamais, hein, ça peut être très bon ou très mauvais. Et la notice sur la Légion d'honneur est particulièrement bien intéressante, bien construite et bien documentée. Ensuite, le Conseil général de l'Aube, alors l'Aube c'est un département français, de la région d'ailleurs de Nogent, et le Conseil général c'est l'assemblée des élus du département. Donc là aussi c'est quelque chose qui est issu de 1789, hein, du découpage du territoire français en départements, et pour chaque département, il devait y avoir à l'origine 36 représentants qui allaient se rassembler régulièrement pour s'occuper des affaires du département. Député. Ah oui, alors à propos du Conseil général, au début, ils étaient nommés. Élus d'une façon, disons, entre pairs, après avec un suffrage qu'on appelle censitaire. Censitaire, ce sont des gens assez riches pour payer une sorte de taxe particulière qu'on appelait le cens, qui s'écrit C-E-N-S, hein, qui vient du latin, bien sûr. Donc le sens et puis le suffrage censitaire. Donc pour simplifier, seuls les gens riches ont le droit de voter. Et à partir de 1848, donc un petit peu après le moment où on est actuellement dans le roman, ce conseil général sera élu au suffrage universel. Donc tous les votants, riches ou pas riches, mais pas les femmes. Hein, les femmes sont encore exclues du suffrage universel, un suffrage universel masculin. Et député, donc là c'est un membre élu de l'Assemblée nationale, hein, vous connaissez déjà ce terme. Et alors l'Assemblée nationale a eu elle aussi différentes fonctions, différentes activités, plus ou moins de pouvoir selon les gouvernements, selon les situations. Et après la charte de 1830 qui renégocie, disons, les relations entre le roi, l'Assemblée et les autres institutions, l'Assemblée nationale prend plus d'importance, plus de poids à partir de la charte de 1830. En effet, en gros, on pourrait dire que c'est l'Assemblée qui propose au roi d'être le roi des Français. Alors qu'avant, c'était le roi qui proposait à l'Assemblée de siéger. Ah, une espèce de relation comme ça, un peu inversée, hein, où c'est l'un qui permet à l'autre. Alors même si ça ne change pas beaucoup, hein, dans l'activité du pouvoir, c'est quand même la base institutionnelle qui change un petit peu de côté. Vers les années 1840, l'Assemblée nationale est assez compliquée, assez divisée. Il y a beaucoup de coalitions, c'est-à-dire de groupements, de petits groupes, de petits partis qui font changer très souvent le contenu du gouvernement et la tendance. Ça aussi, ça fatigue beaucoup le roi, parce que il faut toujours changer un petit peu de direction ou d'attitude dans la façon de travailler. Voilà. Petit à petit, le roi s'habitue à travailler avec des assemblées, hein, plutôt qu'à donner des choses à faire à des gens. Pair de France, c'est pour un petit peu plus tard, c'est une sorte de logique de la continuation de son état. Pair de France, c'est un membre de la pairie. Alors, pairie, c'est une très 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 vieille situation, disons, dans un royaume, en France, mais aussi dans d'autres royaumes, qui, en quelque sorte, construit l'autorité du roi sur l'assistance, l'aide, en cas de besoin quelconque, des pairs. Les pairs étant en quelque sorte les chefs de régions importantes du royaume. Et bon, pour la France en particulier, l'histoire des pairs de France est assez compliquée. Elle commence à l'époque des Francs, donc c'est le deuxième ou le troisième siècle après Jésus-Christ, vers la fin de l'Empire romain, disons. Et puis, ça va se transformer de très nombreuses fois. À partir des Capétiens, donc c'est vers le 8e siècle, hein, il y aura 12 pairs de France. Et à la différence des titres de noblesse, pair de France n'est pas un titre, c'est une fonction. Donc un titre, vous l'avez, vous n'avez rien à faire de spécial. Mais pair de France, c'est une sorte d'activité, de mission, si vous voulez. Ce qui n'empêche pas, évidemment, les titres à côté. En général, ça allait ensemble. Alors, malgré la Révolution, ce genre d'institution se maintient. On a une sorte d'archéologie, de superposition de couches de titres et de fonctions dont on a du mal à se défaire. Et lorsqu'on fait table rase, comme on dit, hein, tabula rasa, on découvre parfois que c'est impossible de gouverner, de reconstruire un État. Donc, il faut aller prudemment dans les transformations. Voilà pour cette présentation de M. D'Ambreuse, que Flaubert a voulu très concentrée, précise, et qui nécessitait donc que je prenne un petit peu trop de temps, malheureusement. On passe à la page 40. Le jeune homme donc était troublé. Cette première visite chez les D'Ambreuse ne se passe pas spécialement bien. C'est-à-dire que Frédéric n'est pas plus remarqué qu'un commissionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une commission, et il ne lui est accordé aucun égard particulier. Lui-même, d'ailleurs, s'était fait un peu d'illusion en se disant « Bon, j'y vais, comme ça, j'aurais peut-être besoin d'un habit, parce que si on m'invite après pour ceci ou cela, bon, et finalement, il ne viendra rien. » Donc, il n'a pas été remarqué particulièrement. On découvre à la page 40 l'intérieur de M. D'Ambreuse, l'intérieur de la maison, de l'appartement, avec beaucoup d'éléments de richesse ou de luxe de cette époque, qui aujourd'hui sont plus ou moins bien compréhensibles d'ailleurs. Alors d'abord on est rue d'Anjou, premier tiers de la page 40. La rue d'Anjou, c'est évidemment dans le 8e arrondissement, et c'est une rue des beaux quartiers, comme on pourrait dire, de Paris à l'époque. Quand il eut poussé une des deux portes cochères, donc on a des grandes portes qui permettent aux voitures tirées par des chevaux d'entrer à l'intérieur, donc ce sont des portes cochères, pour faire passer des coches, c'est-à-dire des voitures. Il y a encore dans Paris, dans certains quartiers, dans le Marais par exemple, des grandes portes comme ça, avec des sortes de bornes sur le côté qui nous gênent quand on marche en tant que piéton. On se demande à quoi ça sert, pourquoi on les laisse. Eh bien, c'était des choses un peu arrondies comme ça et qui servaient à pousser les roues lorsque les roues étaient mal orientées, de façon à ne pas cogner dans le mur, c'est-à-dire bloquer, mais faire glisser un peu la roue pour qu'elle se mette dans l'axe de l'entrée. Et voilà, si vous y passez, vous verrez ce genre de choses. Il y en a encore quelques-uns, des bornes comme ça, pour chasser les roues. Alors, un double escalier, donc signe de richesse évidemment, puisque à peu près inutile, hein, un simple escalier suffit tout à fait pour monter dans une maison. Les hautes murailles, donc des murs très hauts, sans doute plus de 2,50 m, hein, pas comme nos appartements d'aujourd'hui, en stuc luisant. Alors le stuc, c'est une matière qu'on utilisait beaucoup, qui est une, aujourd'hui on dirait du plâtre, hein, on a remplacé par du plâtre, mais le stuc était un peu différent et il offrait plus de possibilités de décoration, de sculpture, de moulage et de coloration. Donc on pouvait colorer le stuc pour ressembler à du marbre, par exemple, hein, en faisant plusieurs couches, et on arrivait à cette apparence. Donc c'était moins cher que le marbre, mais aussi moins lourd pour les murs, les maisons. Alors il paraît, j'ai vu ça en cherchant dans l'internet hier, que le stuc redevient un matériau intéressant pour, disons, l'environnement d'aujourd'hui. Bon, donc c'est à voir. Hein. Si vous avez des travaux d'intérieur à faire, vous pouvez demander du stuc. Autre élément, disons, de richesse ou de luxe, un bananier. Un bananier, donc une plante tout à fait exotique, à une époque où il n'est même pas encore certain qu'on mangeait des bananes. J'ai cherché un peu depuis quand on mange des bananes, et j'ai trouvé que c'était après vers le Second Empire. J'ai l'impression qu'avant on mangeait pas de bananes, on savait peut-être même pas ce que c'était, mais l'arbre lui-même, donc tout à fait décoratif. Là ce serait à vérifier, hein, si vous avez des ouvrages à la maison, à voir. Deux candélabres de bronze tenaient des globes de porcelaine, ça c'est très luxueux. Les soupiraux des calorifères. Alors les soupiraux des calorifères, aujourd'hui on dirait l'orientation de l'air conditionné. Donc calorifère, c'est quelque chose qui produit de la chaleur. Donc c'est une sorte de chaleur produite pour la maison. Donc c'est pas la cheminée dans chaque pièce, c'est une chaudière qui produit de la chaleur. Et avec des tuyaux, on va amener cette chaleur par de l'air chaud, par des soupiraux. Donc soupirail au singulier, soupiraux au pluriel, une ouverture par laquelle l'air chaud arrive. Là aussi, bien sûr, c'est la marque d'une maison riche, ayant la possibilité de se payer un système de chauffage. Par la suite, on dira chauffage central, hein, c'est-à-dire avec une seule chaudière, et la distribution du chauffage par des tuyaux. Je crois qu'on est au mois de décembre, hein, si je ne me suis pas trompé. Non, novembre, parce que deux mois avant, c'était septembre. Donc là, on est en novembre 1840. Donc il y a peut-être déjà une raison de chauffer à Paris. Et puis, une grande horloge dressée à l'autre bout du vestibule sous une panoplie. Alors, panoplie, le premier sens auquel on pense aujourd'hui, au XXIe siècle ou à la fin du XXe siècle, c'est des vêtements pour les enfants qui vont jouer, qui vont s'amuser à être, je ne sais pas, médecin ou militaire ou pirate. Mais à cette époque, et pendant très longtemps, on appelle panoplie deux choses. D'abord, le... comment on dit panoplie ? L'armure, voilà. L'armure complète d'un chevalier. Alors bon, en métal, comme ça, les jambières, le casque, etc. Bon, ça, c'est la panoplie d'un chevalier. Et puis, par ailleurs, panoplie, un ensemble d'armes, donc épées, sabres, etc., qui sont installés au mur sous forme décorative, mais que l'on peut attraper en cas de besoin. Ça aussi, c'est toujours utile. Donc, une panoplie. Un timbre sonna, un valet parut. Alors, un timbre, c'est une sonnette. Hein. Introduisit Frédéric, etc. Et Monsieur d'Ambreuse, un bureau à cylindres. Alors, un bureau à cylindres, c'est un beau bureau avec des tiroirs comme ça et la fermeture sous forme d'un panneau de bois qui est en fait un quart de cylindre que l'on peut fermer, ouvrir comme ça. Donc, ce sont des très beaux bureaux depuis longtemps. Voilà, donc il regarde la lettre. Pendant qu'il regarde la lettre, Frédéric le regarde et nous avons une description d'une personne un peu âgée. Il pouvait sembler jeune encore parce qu'il est mince, mais ses rares cheveux blancs, ses membres débiles, débiles au sens où ils n'ont plus beaucoup de force. Hein, c'est pas débile au sens de idiot, comme on dit aujourd'hui communément. Donc, peu de force et très pâle, visage très pâle, accusait un tempérament délabré. Ici aussi, tempérament est dans le sens, disons, de ancien, hein, de la médecine ancienne. Le tempérament, c'est la situation de l'ensemble des organes d'une personne. Donc, avoir un bon tempérament, c'est, aujourd'hui, on dirait, être en bonne forme physique. Et cependant, une énergie impitoyable reposait dans ses yeux glauques. Alors là aussi, glauque au sens classique, c'est-à-dire vert, un peu bleu, un peu blanc. Hein, donc c'est une couleur de l'eau. Et utilisé aussi pour quelque chose qui n'est pas net, qui manque de netteté, de précision, un peu flou. Alors peut-être que c'est sur des yeux, effectivement, d'une personne un peu âgée, une sorte de voile qui commence à apparaître et on ne voit plus nettement l'œil. Alors, une énergie reposait dans ses yeux glauques, c'est assez bizarre comme situation. Comment on peut voir une énergie qui repose? Parce que reposer, c'est être au repos. Hein, donc c'est être là, sous forme statique, en quelque sorte stocké à l'intérieur, et on voit que c'est de l'énergie. C'est un petit peu bizarre, un peu paradoxal. Et il ajoute, d'ailleurs, avec une sorte de comparaison de supériorité, plus froid que des yeux de verre. Ah, donc cette énergie est une énergie froide. C'est assez bizarre comme description. Alors, Monsieur d'Ambreuse se lève, adresse quelques questions, et puis c'est tout. Il le congédia en s'inclinant. Frédéric sortit par un autre corridor, etc. Donc voilà, cette première rencontre n'est pas très prometteuse, pas très intéressante pour Frédéric. Elle lui a simplement donné une vision, un aperçu de ce que c'est qu'une maison riche dans Paris. On peut penser d'ailleurs au bal auquel se rend Madame Bovary, qui lui permet à elle aussi de voir ce que c'est qu'un château chez les riches, mais qui restera inaccessible. Donc on a des gens qui ne sont pas complètement pauvres, qui sont des petits bourgeois, des petits rentiers, qui ont une bonne situation, mais qui aspirent, qui souhaitent hein, la situation des riches, et donc ils arrivent à voir, entrevoir un petit peu, et puis alors ça leur donne évidemment beaucoup d'envie, de désir, et parfois pas toujours possible à atteindre. là, on a quelque chose de commun entre Emma et Frédéric. Alors bon, Frédéric va quand même réussir un peu mieux à y entrer. Hein. C'est un pas supplémentaire qu'il réussira. Le voilà donc dans la rue et passe devant des boutiques, des magasins, etc. Et tout à fait par hasard, alors la semaine prochaine, le mot, l'aventure d'un mot sera sur le mot hasard, puisque on en connaîtra assez. En voilà un. Donc vers les deux tiers de la page 41. Le cocher lâcha les rênes, le cheval frôla la borne brusquement, donc la borne qui chasse la roue à la sortie, et il n'a pas pu voir exactement la femme qui était dans la voiture. Et tout disparut. Frédéric s'en revint à pied, en suivant les boulevards, c'est-à-dire les grands boulevards de l'époque, hein, après la Madeleine, vers l'Opéra, etc. Il regrettait de n'avoir pu distinguer Madame d'Ambreuse. Il pense que c'est Madame d'Ambreuse. Un peu plus haut que la rue Montmartre, un embarras de voiture lui fit tourner la tête. Et de l'autre côté, en face, il lut sur une plaque de marbre, Jacques Arnoux. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas ces voitures-là, tout à fait par hasard, hein, il tourne la tête et il tombe dessus. Oh, tiens, c'est là. Et il n'y pensait même pas. Hein. Il y aurait pensé un autre jour, mais comment n'avait-il pas songé à elle plus tôt? Bon, la faute venait de Deslauriers, en effet, puisqu'il était focalisé sur ce passage chez les D'Ambreuse. Voilà donc l'art industriel et la présentation de ce qu'était cette sorte de magasin, de boutique à l'époque. Je ne sais pas si vous avez essayé de vous représenter un peu ce que c'était. Une sorte de galerie avec une revue ou avec un journal. Et donc, dans le magasin-galerie, on peut à la fois s'abonner, s'asseoir pour lire des journaux, discuter avec d'autres gens, un peu comme un salon, mais un salon qui serait ouvert sur la rue, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on appelle les salons, qui sont plutôt fermés. Donc, c'est quelque chose de nouveau et qui, on pourrait dire, réalise le nom paradoxal de art industriel. Parce que, comme je disais l'autre jour, art et industriel, ça semble plus ou moins être contraire ou s'exclure, et on peut essayer de faire les deux en même temps. Alors, l'ambition de Jacques Arnoux n'est pas d'être un artiste ni un mécène, mais de réussir des affaires dans le domaine culturel et un peu politique aussi. Donc c'est à la fois, on pourrait dire, un directeur de magasin, un directeur de publication, un éditeur. Hein, donc il faut essayer d'imaginer ce genre de choses. Page 42, donc Frédéric faisait semblant d'examiner les dessins. Après des hésitations infinies, il entra. Un employé souleva la portière et répondit que monsieur ne serait pas au magasin avant 5 heures. Mais si la commission pouvait se transmettre, non, je reviendrai. Donc, dans cet endroit un petit peu difficile à définir, l'employé qui y travaille dit lui-même au magasin. Et Flaubert nous le marque avec des guillemets. C'est-à-dire en montrant qu'il cite la parole de l'employé. Donc ce n'est pas Flaubert qui nomme cet endroit un magasin, c'est l'employé lui-même. Bien sûr, c'est Flaubert qui le fait, évidemment. Mais ça veut dire pour nous que Frédéric ne sait pas comment nommer cet endroit. Et il va, en quelque sorte, mémoriser, se citer à lui-même la parole de l'employé, pour savoir que c'est un magasin. Sinon, Frédéric n'aurait pas su comment nommer cet endroit. Voilà comment Flaubert fait stratégiquement pour nous faire comprendre cela. Alors là aussi, donc, c'est raté. Donc, le même jour, il a déjà raté deux trucs, et ça suffit pour aujourd'hui. Les jours suivants furent employés à se chercher un logement, et il se décida pour une chambre au second étage, dans un hôtel garni, rue Saint-Hyacinthe. Petite rue qui se trouve aujourd'hui entre les Tuileries et le métro Pyramide. Je ne sais pas si vous voyez où est le métro Pyramide, entre l'Opéra et Palais Royal. On a cette grande avenue là, comme ça, pas très loin de la boutique japonaise Kyoko, je crois que ça s'appelle. Et puis alors, il y a le métro Pyramide. Et près de ce métro, il y a maintenant un marché couvert. Je ne sais plus comment s'appelle ce marché. Marché Saint-Honoré, marché Saint... quelque chose comme ça. Bon, enfin, c'est par ici, dans ce quartier. Voilà, donc c'est un très beau quartier hein, pour trouver un hôtel garni. Qu'est-ce que c'est un hôtel garni? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un hôtel meublé. Meublé, équipé. Alors, bien sûr, vous pouvez louer un appartement, mais lorsque vous louez un appartement, c'est vide. Donc, il faut acheter des meubles, il faut acheter du linge, des draps, des serviettes, etc. Donc, un meublé, il n'y a que les meubles. Vous apportez votre linge, vos draps, etc. Et garni, ça veut dire qu'il y a tout. Voilà. Donc, ça existe encore aujourd'hui. Hein. On peut louer des... Mais on ne les appelle plus garnis. Aujourd'hui, si vous allez dans une agence immobilière et vous demandez est-ce que vous avez des appartements garnis, on va vous dire de quoi vous parlez. On ne comprend pas. Alors ici, c'est un hôtel garni. Donc, c'est-à-dire que dans l'hôtel, on a un service aussi, que quelqu'un vient faire votre chambre, que vous pouvez demander à manger, etc. En portant sous son bras un buvard tout neuf, il se rendit à l'ouverture des cours. Alors, on va voir ces deux petits paragraphes, et puis après, on va faire la pause. Hein. Voilà donc, après ces deux premières démarches, disons, toutes les deux, en quelque sorte, mondaines, hein, de mondanité, voire des personnes, il commence effectivement... La véritable activité hein, qui motive sa présence à Paris, les cours de droit à l'université. Alors, sous son bras, un buvard tout neuf, un buvard, je ne sais pas, aujourd'hui, ça serait un truc comme ça, quoi, une pochette, un sac, un dossier, avec peut-être du papier buvard dessus ou dedans. Enfin, c'est pas très clair. Alors, comment ça se passe l'ouverture des cours? Ça intéresse tout le monde. Il y a pas mal de remarques dans les études flaubertiennes sur comment ça se passe dans la faculté. 300 jeunes gens, nu-tête, emplissaient un amphithéâtre où un vieillard en robe rouge dissertait d'une voix monotone. Des plumes grinçaient sur le papier. Il retrouvait dans cette salle l'odeur poussiéreuse des classes, une chair de forme pareille, le même ennui. Pendant 15 jours, il y retourna, mais on n'était pas encore à l'article 3 qu'il avait lâché le code civil et il abandonna les institutes à la summa divisio personarum. Les joies qu'il s'était promises n'arrivaient pas et quand il eut épuisé un cabinet de lecture, parcouru les collections du Louvre et plusieurs fois de suite été au spectacle, il tomba dans un désœuvrement sans fond. C'est donc très 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 rapide, non seulement le temps réel qui nous est proposé, puisque 15 jours et encore quelques autres, hein, donc c'est très rapidement, disons moins d'un mois en tout, il commence à s'ennuyer et à tomber dans le désœuvrement sans fond. Et puis, de la part de Flaubert, c'est une quinzaine de lignes, hein, une quinzaine de lignes pour décrire ce qui... dans d'autres romans du XIXe siècle, occupe des dizaines ou des centaines de pages, de décrire les études, les activités de tous les jours, les sorties avec les copains, les copines, etc. Là, c'est, on peut dire, lapidaire au sens de très rapide, hein, du latin lapidus, c'est comme on jette une pierre, très rapide, comme ça. Et dans le sens aussi de expéditif, négatif, mauvais. Ça indique d'un côté que Frédéric ne s'intéresse pas à ses études, qu'il n'arrive pas à se motiver pour les continuer, et ça indique d'un autre côté une sorte de pensée de Flaubert, vis-à-vis des études de droit et peut-être de l'université en général. À quoi sert l'université? Bon, là, on ne voit pas tellement de motivation. Alors, peut-être on n'est pas d'accord parce qu'on est quelques universitaires ici à avoir pu apprécier quand même ce qui s'y passe, mais pour Flaubert, ce n'est pas une grande référence. Alors, ces 300 jeunes gens, nu-tête, c'est-à-dire ils ont retiré leur chapeau, et un vieillard. C'est cette sorte d'opposition un peu horrible entre 300 jeunes gens et un vieillard en robe rouge. Et le vieillard dissertait d'une voix monotone, donc ça veut dire que c'est pas très animé. J'espère que ça n'est pas mon cas avec vous et que vous arrivez à ne pas vous ennuyer. Des plumes grinçaient sur le papier et là où on n'y peut rien, en même temps, il retrouve l'odeur poussiéreuse des classes. Une chaire, c'est donc la sorte de bureau surélevé par des marches où va le professeur. Conclusion de Flaubert, le même ennui, point d'exclamation. Alors c'est comme un discours indirect libre, c'est comme si Frédéric s'exprimait à travers la phrase de Flaubert sans qu'il y ait de citation. Ça, c'est une grande spécialité de Flaubert. Dans beaucoup de phrases, on ne sait pas très bien qui s'exprime. Un personnage, plusieurs en même temps, l'auteur, le narrateur, tout est un peu mélangé. C'est le discours indirect libre à la Flaubert. Alors quand même, il y retourne pendant 15 jours et il abandonne alors qu'on n'arrive pas encore à l'article 3 du Code civil, qui en compte plusieurs centaines, évidemment. Et je ne fais pas de détails sur institutes, parce que je n'ai aucune connaissance de droit. Donc je suis désolé si quelqu'un a des éclairages sur ce sujet, je veux bien les entendre. Alors donc ces joies promises n'arrivent pas, et il essaye de faire autre chose. Par exemple, un cabinet de lecture. Par exemple, le Louvre, le spectacle. Donc ce sont des possibilités encore de se cultiver, d'apprendre des choses, de rester dans une voie culturelle plutôt que mondaine ou autre. Mais ça ne marche pas non plus. Donc un dernier point, si vous voulez, sur les cabinets de lecture. Qu'est-ce que c'était dans cette première partie du 19e siècle, les cabinets de lecture? Ce sont des sortes de petites bibliothèques dans lesquelles on entrait, on s'inscrivait et pour voir soit des livres, soit des journaux, des feuilles, comme on disait, auxquels le cabinet était inscrit, était abonné. Donc on venait y lire la presse ou la littérature, des classiques comme des ouvrages nouveaux. Et bien entendu, la possibilité de rencontrer des gens qui viennent au même cabinet de lecture et donc partagent avec vous certains goûts. Au début, il y avait assez peu de cabinets de lecture, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, mais en 1840, là aussi, l'article de Wikipédia est assez bien fait, donc je vous le recommande. En 1840, c'est tout à fait bien pour nous, le nombre de cabinets de lecture à Paris était de 189. 189 cabinets de lecture dans Paris. Donc c'est pas un dans chaque rue, mais presque. Ça fait beaucoup de possibilités. Voilà, on fait une petite pause pour marquer cette période du chapitre et on continue après. Bien, on va reprendre, continuer. Alors, on ne peut pas regarder en détail tout le chapitre comme cette première partie. Et pour décrire la suite, la deuxième partie, du chapitre, disons, les pages qui viennent, on pourrait dire qu'on va voir se développer la nature de Frédéric, que j'appellerais une nature instable, inconstante ou velléitaire. Alors, instable, tout le monde comprend. Inconstante, c'est-à-dire, je disais l'autre jour, hein, une marque de constance. Donc, inconstante, c'est-à-dire, il change d'avis, de position, de direction. Et velléitaire, c'est-à-dire, des velléités, c'est des choses qu'on a envie de faire d'un seul coup, sans réfléchir aux conséquences ou à l'utilité de ces choses. Et on va donc le voir abandonner les cours, essayer telle chose, puis telle autre. Une sorte d'épuisement par la répétition. Cette situation, disons, inconstante et velléitaire, elle est aussi une sorte de topos littéraire, c'est-à-dire une situation que l'on retrouve dans différents livres. Par exemple, dans le À rebours de Huysmans, d'une façon beaucoup plus organisée, vous allez avoir quelqu'un qui va essayer un certain nombre d'activités sans qu'aucune ne puisse finalement le satisfaire, c'est-à-dire lui donner une pleine sensation d'existence ou bien d'être à sa place, que ce soit son destin, comme on dit. Et puis, bon, on pourrait trouver d'autres personnages dans la littérature. Et bien sûr, pour revenir à Flaubert, Bouvard et Pécuchet, dont vous savez que par enthousiasme, on peut pas leur enlever la volonté d'essayer des choses, mais aucune chose ne les satisfait. Et cette impossibilité de se satisfaire semble venir à la fois de la personne, des personnes, donc Bouvard et Pécuchet eux-mêmes, ou Frédéric, je ne parle plus de Huysmans, hein, c'est une autre histoire. Donc ça vient à la fois des personnes qui ne sont pas capables de se satisfaire, de se motiver dans une direction, un choix de vie, et on a l'impression, Flaubert nous laisse penser, que cela vient aussi des choses elles-mêmes, qui ne sont pas suffisamment intenses, passionnantes, au sens où les gens pourraient se passionner pour elles. Alors, ici, on le voit un petit peu chez un... de façon, comment dire, en commençant chez un jeune homme, on peut penser qu'il va faire ça pendant quelques temps et puis il va choisir. Alors, dans ce cas, on aurait une période d'inconstance suivie d'un choix. Et ça serait quelque chose de tout à fait raisonnable, qu'on trouve aussi dans beaucoup de romans. Alors, on appelle ça la période de la vie, hein, le jeune homme fait sa vie, et puis un jour, il décide d'embrasser une carrière, d'avoir une situation, de s'installer, vous voyez, ce genre de vocabulaire. Souvent, ça s'accompagne du mariage, des enfants, et ça, un parcours très classique. Donc, à ce moment de notre lecture, nous ne pouvons pas savoir si il s'agit encore d'un jeune homme qui va en effet essayer différentes choses pour s'arrêter sur une, et par exemple devenir un homme d'affaires, devenir un homme de loi, devenir un écrivain ou un peintre. Ou bien s'il va, alors comme ça sera le cas, hein, toute sa vie, continuer à ne pas savoir ce qu'il veut faire. Ce qui est quand même quelque chose de très moderne. Hein. Il faut attendre peut-être le XXe siècle, Jean-Paul Sartre, pour voir que la vie ne motive pas les individus, ou encore plus tard, chez Pérec par exemple, on va avoir aussi ce genre d'attitude en ne sachant pas ce qu'on veut faire de sa vie. qui permet de justifier aussi pourquoi Flaubert est devenu tellement important après la Seconde Guerre mondiale dans les études littéraires. C'est parce que pendant un bon demi-siècle, hein, de son époque jusqu'à l'entre-deux-guerres, on était dans une période, disons, du réalisme, de l'engagement romanesque dans la construction de quelque chose, et on a plutôt négligé l'enseignement, si on peut dire, les voies proposées par Flaubert, parce qu'elles étaient décevantes. Tout était décevant. Et donc on a mis ça de côté, et on a préféré, avec Zola ou avec d'autres, construire du roman social. Et puis ça arrivera aux hommes de bonne volonté, hein, du XXe siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en tout cas.
Ah, monsieur.
Oui.
Instable, inconstant.
Oui.
Et puis.
Et velléitaire, pardon, je vais l'écrire. Donc, velléité ou velléitaire. Alors, en partant de ces idées, on peut regarder un peu plus vite ce qui se passe et la succession justement des choses qu'il essaye et qui s'épuisent naturellement les unes après les autres. Alors, en haut de la page 43, c'est donc au sens un petit peu exagéré qu'il y a 1000 choses nouvelles qui ajoutaient à sa tristesse. J'y reviendrai dans très peu de temps, hein, avec l'aventure du mot désœuvrement. Il lui fallait compter son linge et subir le concierge, ruste à tournoi d'infirmier qui venait le matin. Bon, donc c'est supporter, disons, sa condition, qui n'est pas une condition de riche, malheureusement. Son appartement lui déplaît. Il entend les étudiants faire du punch. Pourquoi il entend les étudiants faire du punch? Pourquoi il n'est pas avec eux à boire du punch? C'est ça le problème. Pourquoi il reste seul de son côté? Pourquoi il ne va pas avec eux? Il n'y arrive pas. Le punch, je pense que vous avez déjà vu ce mot-là dans différents livres. On se demande toujours ce que c'est et ce qu'il y a dedans. Alors en général, il y a du rhum, un alcool assez fort. On prépare ça dans quelque chose d'assez grand, on ajoute beaucoup de sucre et on fait flamber de façon à caraméliser un peu le sucre, et on ajoute du thé, des jus de fruits, des morceaux de fruits, enfin il y a beaucoup de recettes différentes. On trouve une recette dans le livre de cuisine d'Alexandre Dumas. Vous savez qu'il a écrit un grand livre de cuisine, il y a de très très bonnes recettes d'ailleurs. Et il parle du punch à la française. Mettez dans un même bol, un grand bol, hein, une bouteille de vieux rhum, 1 kg de sucre. Mettez le feu, agitez, ajoutez, quand ça a diminué d'un tiers, mélangez 2 pintes de thé souchong. Donc souchong, je ne sais pas comment vous dites en japonais le souchong. C'est du thé fumé chinois, noir, qui a un goût assez fort. Hein. En français, on dit le souchong, encore aujourd'hui, hein, qui doit être bouillant. Et on ajoute ensuite du jus de citron et d'orange. Voilà, et puis ensuite on boit. On boit tiède. Et évidemment, ça doit saouler assez vite. Il faut être très prudent avec le punch. Bon, voilà. Et donc, pourquoi il n'est pas en train de rire et chanter et s'amuser avec eux? En même temps, pourquoi il n'est pas avec les autres à ses études? Donc, solitude. Il cherche un ancien camarade, donc certainement de la faculté, hein, très peu de temps avant, qui s'appelle Baptiste Martinon. Alors, Martinon le reverra de temps en temps. Il finira par avoir une très bonne carrière. Et on voit bien la différence, hein, le violent contraste entre les deux personnages. Martinon était ce qu'on appelle un fort bel homme, grand, joufflu, la physionomie régulière et des yeux bleuâtres à fleur de tête. Son père, un gros cultivateur, le destinait à la magistrature. Et, voulant déjà paraître sérieux, il portait sa barbe taillée en collier. Comme les ennuis de Frédéric n'avaient point de cause raisonnable et qu'il ne pouvait arguer d'aucun malheur, Martinon ne comprit rien à ses lamentations sur l'existence. Pardon. Lui, il allait tous les matins à l'école, se promenait ensuite dans le Luxembourg, prenait le soir sa demi-tasse au café, et avec 1500 francs par an et l'amour de cette ouvrière, il se trouvait parfaitement heureux. Quel bonheur ! Exclama intérieurement Frédéric. Donc voilà quelque chose qu'il constate. Il constate que Martinon est heureux, donc il ne dit pas que ce que fait Martinon est mauvais ou bête ou quoi que ce soit. Au contraire, dans un sens, il l'envie un peu, mais il est incapable de faire pareil, c'est-à-dire de ressentir cette façon sérieuse d'organiser sa vie de Martinon. On peut revenir, bien sûr, à la définition du titre, hein, l'éducation sentimentale. Martinon a une éducation autre, qui n'est pas sentimentale. Et Frédéric, lui, il n'arrive pas à se fixer des choses sérieuses. On voit dans cette page et juste avant, donc, il est question de désœuvrement, de tristesse, de lamentation sur l'existence et d'ennui. L'ennui au singulier, c'était dans le paragraphe de la faculté, le même ennui, point d'exclamation, et ici, presque en face, à la page 43, les ennuis de Frédéric n'avaient point de cause raisonnable. Donc au pluriel. Alors, dans les occurrences, les autres occurrences que j'ai rassemblées du mot ennui, on verra qu'il y a plusieurs sens possibles, mais globalement, en majorité, disons, on va avoir ce sens de l'ennui, de l'absence d'activité, de l'absence de motivation pour faire quelque chose et qui produit de l'ennui. Après Martinon, on passe à Monsieur de Sisy, donc qu'il avait aussi rencontré à l'école, et qui semblait une demoiselle à la gentillesse de ses manières. Donc Monsieur de Sisy, automatiquement la particule souligne l'appartenance à la noblesse, qui n'est pas cachée comme celle de Dambreuse. Monsieur de Sisy s'occupait de dessin, aimait le gothique, ils allèrent ensemble visiter donc des monuments. Alors ce jeune homme est très distingué, mais comme il dit, la distinction du jeune homme, du jeune patricien, recouvrait une intelligence des plus pauvres. Donc on peut être de bonne famille aristocratique et assez peu intelligent, et Frédéric qui est donc... Se considère comme plus intelligent, ou qui est peut-être réellement plus intelligent, voit bien que ce de Sisy n'a rien de plus qu'une belle apparence et un certain comportement, une distinction de famille. Alors, il est question de son ingénuité, donc c'est une sorte de naïveté, de bêtise, gentille, hein, on pourrait dire, mais à la page 44, Frédéric le prit d'abord pour un farceur, c'est-à-dire quelqu'un qui se moquerait de lui, qui jouerait le rôle d'être bête. Mais finalement, il s'est aperçu que ce n'était pas un farceur, et donc il le considéra comme un nigaud. Un nigaud, alors, un idiot, un imbécile, quelqu'un à qui il manque des capacités intellectuelles. Conclusion après ces deux tentatives auprès de jeunes gens de son âge, les épanchements n'étaient donc possibles avec personne. Et il attendait toujours l'invitation des Dambreux. Épanchement, là aussi c'est un mot à prendre avec prudence, on l'utilise beaucoup dans le domaine médical. Il s'agit de fuite d'un organe, quelque chose qui coule, une forme de blessure ou de maladie. Mais ici, c'est bien sûr au sens moral, et l'épanchement, c'est le fait de laisser s'exprimer ses sentiments. Donc on dit donner libre cours à ses sentiments, ne pas avoir de pudeur ou de retenue, et donc se confier à quelqu'un en toute liberté, toute sincérité. Alors on cherche bien sûr l'ami sincère et honnête avec qui on peut avoir ce genre de relation. Ça, c'est un grand thème chez Flaubert, et il semblerait que du côté de l'amour, ça soit difficile ou presque impossible, alors que de l'autre côté, l'amitié semble quelque chose de plus possible, mais quand même difficile. En même temps, un jeune homme comme Frédéric ne recherche pas l'amour. L'amour, on recherche l'amour pour se marier, pour fonder une famille, et ça n'est pas dans l'esprit de Frédéric à ce moment-là. Donc pour lui, l'amour, s'il pensait à l'amour, ça ne serait que sous la forme de relations physiques avec des jeunes femmes, plutôt des prostituées ou des demi-mondaines, comme on dit. Donc il n'y a pas une recherche de l'amour. Alors que, par exemple, dans le roman du XXe siècle, ou du XXIe siècle, puisqu'on y est maintenant, dès l'âge de 15-16 ans, un jeune homme cherche l'amour, beaucoup plus que l'amitié, et de l'amitié, il en a. On a toujours des copains ou des copines avec lesquels on est amis. Donc là, il y a peut-être un grand changement entre le XIXe et le XXe siècle. Je ne sais pas quand, il faut aller voir d'autres spécialistes, mais l'amour qui était une chose facile dans le sens physique, ou bien la construction d'une famille, bon, est au contraire plus difficile à atteindre, mais plus souhaité, l'amitié. Et puis donc aujourd'hui, tout à fait le contraire, l'amitié est une chose presque banale, que l'on a l'impression d'obtenir sans difficulté, encore qu'il faudrait se méfier, de l'amitié d'aujourd'hui, et au contraire, la quête de l'amour qui nous a rattachés directement avec le Moyen-Âge, avec les chansons de Troubadour. Voilà donc pour ces épanchements, parce que si vous prenez un roman du XXe siècle, le désir d'épanchement, il est avec la femme aimée, ou il est de la femme avec l'homme aimé, ou bien s'il s'agit d'homosexuel, avec la personne aimée, mais pas au sens de l'amitié. Bon. En même temps, bien sûr, il faut continuer à aller à l'art industriel, donc il y va, il y retourne, mais ça ne marche pas. À la page 44, il en est à sa troisième tentative, et il va essayer des stratégies. Alors, il eut d'abord l'idée de se présenter souvent pour marchander des tableaux, puis il songea à glisser dans la boîte du journal quelques articles très forts, peut-être va-t-il mieux courir droit au but, déclarer son amour. Bon. Il ne fait rien de tout ça. Il eut d'abord l'idée, puis il songea à. Mais ce ne sont pas des choses qu'il a faites. Ensuite, il compose une lettre pour déclarer son amour, donc, et voilà, il la déchire et il ne tente à rien, immobilisé par la peur de l'insuccès. Insuccès est un mot très rare qui se trouve 3 ou 4 fois dans ce roman et dans peu d'autres livres. C'est pas un mot très, très employé, mais c'est un beau mot, insuccès. Comment elle s'appelle, notre académicienne, Florence Delay, académicienne d'aujourd'hui, encore bien vivante, a écrit un roman qui s'appelle « L'insuccès de la fête ». C'est un beau roman aussi, peut-être trouvé là, à la médiathèque. Alors, on observe les rideaux au-dessus de la boutique d'Arnoux, en croyant bien sûr que madame y habite. On surveille une négresse qui passe dans les Tuileries. Et bien sûr, il continue à errer dans la ville, comme on dit en bas de la page 44, jusqu'au bout des Champs-Élysées. Jusqu'au bout des Champs-Élysées, ça veut dire presque déjà à la campagne. Hein. Les Champs-Élysées ont été aménagés un peu mieux au XVIIIe siècle. Ils sont devenus un endroit un petit peu dangereux par rapport au bord de la Seine, qui est beaucoup plus, disons, sécurisé, comme on dirait aujourd'hui. Et puis, quand même, au début du XIXe siècle, vers cette époque-là, les Champs-Élysées redeviennent un endroit chic. Et ça va être l'investissement massif hein, des Champs-Élysées et du 8e arrondissement par la bourgeoisie de l'époque. Alors, on va réorganiser complètement les jardins, on va installer des théâtres, des fontaines, et c'est exactement dans ce moment-là. Mais tout en haut de la colline, il n'y a pas encore, bien sûr, la place de l'Étoile, c'est la campagne là-bas. On voit passer les femmes dans des voitures et les voitures sont plus nombreuses, ralentissant à partir du rond-point. Donc là, après, on est près du parc, hein, près du jardin. Pour le vocabulaire, il n'y a pas trop de difficultés. Crinière, c'est les chevaux, bien sûr. Donc, les crinières étaient près des crinières, ça veut dire les chevaux sont nombreux, hein, serrés presque, un embouteillage. Les lanternes près des lanternes, les étriers d'acier, les gourmettes d'argent. Alors gourmette, c'est une chaîne qui passe sous la tête du cheval pour attacher le mors, M-O-R-S, qui passe dans la bouche du cheval et qui permet de le tenir. Hein, vous savez que le cheval est tenu par un équipement comme ça et quelque chose qui passe dans sa bouche qu'on appelle le mors. Et il faut donc attacher des deux côtés avec une chaîne en dessous qui s'appelle gourmette. Alors bien sûr, Frédéric cherche partout Madame Arnoux et il ne la trouve pas. Jusqu'au soir, au premier tiers de la page 45, il se la figurait au milieu des autres, dans un de ses petits coupés, pareil au coupé de Madame d'Ambreuse. Il croyait être Madame d'Ambreuse. Mais le soleil se couchait et le vent froid soulevait des tourbillons de poussière. Les cochers baissaient le menton dans leurs cravates, les roues se mettaient à tourner plus vite, le macadam grinçait et tous les équipages descendaient au grand trot la longue avenue en se frôlant, se dépassant, s'écartant les uns des autres, puis sur la place de la Concorde se dispersaient. Un beau mouvement hein, de voitures, là on voit la perspective de la descente des voitures. À cette époque, l'avenue des Champs-Élysées est peut-être plus large qu'aujourd'hui encore, avec des arbres au milieu et sur les côtés. Et il y a un côté pour monter, un côté pour descendre, mais c'est vraiment très large. Et on commence à avoir du macadam, c'est-à-dire une surface. Hein, c'est pas la terre. Comme avant. Les cochers baissaient le menton dans leur cravate. Alors, le mot cravate, c'est un mot qui date, en gros, qui date de Louis XIV. Louis XIV a vu des soldats croates, qui étaient des mercenaires, en fait, un peu comme les Suisses, hein. Chez eux, il n'y avait pas de travail, donc les jeunes gens venaient s'employer comme soldats au service de personnalités ou d'autres pays. Et il y avait donc des régiments de Suisses, hein, vous avez tous déjà vu ça, le Suisse qui monte la garde, etc. Et bien de la même façon, à l'époque de Louis XIV, il y avait des Croates qui sont arrivés avec leurs costumes. Et Louis XIV a remarqué que ces soldats croates portaient quelque chose autour du cou qui était attaché, comme ça qu'il avait trouvé très, très bien. Et donc, il a commencé à signaler, et c'est devenu une mode qu'on a appelée donc cravate, par déformation du mot croate. Parfois, quand j'explique ça, j'ai l'impression de dire un truc monstrueusement idiot ou comique, mais c'est absolument la réalité. Croate et cravate sont le même mot qui s'est déformé avec le temps. Alors au début, c'était une sorte de col ou quelque chose par-dessus le col, et puis petit à petit, c'est devenu pour attacher sous le col. Aujourd'hui, j'en ai pas. Ce sera pour une autre fois, quand il fera plus froid. Parce que justement, c'était lié à la température. Donc l'été, on n'avait pas besoin de cravate. Voilà, donc descente de l'avenue jusqu'à la place de la Concorde. Et place de la Concorde, vous savez qu'il y a beaucoup de rues et d'avenues qui partent dans différentes directions. Hop, dispersion. Ensuite, derrière les Tuileries, le ciel prenait la teinte des ardoises. Ardoises qui sont sur les toits, donc gris-noir. Les arbres du jardin formaient deux masses énormes, violacées par le sommet. Les becs de gaz s'allumaient. Alors les becs de gaz, ce sont les poteaux qui tiennent l'éclairage public de l'époque, qui est un éclairage au gaz qu'on a installé quelques années auparavant. Il y a au moins deux sortes de becs de gaz bien connus. Il y a des poteaux qui sont un peu comme les poteaux d'aujourd'hui, les luminaires d'aujourd'hui, et d'autres qui étaient accrochés au mur dans les rues. Donc vous regardez le mur de la... d'un bâtiment comme ça, et au coin de la rue, en général, on avait une sorte de barre attachée comme ça, et à laquelle venait un tuyau de gaz pour alimenter le bec de gaz. Et donc, dans certains vieux murs de Paris, on trouve encore la marque métallique du tuyau et, à hauteur d'homme, l'ouverture qui permettait de brancher les tuyaux. Cette histoire de l'éclairage est très intéressante et très importante parce que elle, en quelque sorte, elle provoque l'histoire des activités. Lorsqu'il n'y a pas d'éclairage, vous lisez par exemple des récits de l'époque de la Saint-Barthélemy. Pourquoi il y a la Saint-Barthélemy? C'est parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Les gens s'entretuent dans la rue parce qu'ils ont des signaux plus ou moins de couleurs, de petites lumières, mais aucun éclairage général qui permet de voir arriver le danger. Donc la Saint-Barthélemy, Régis Debray pourrait dire que une sorte de résultat de la médiologie, hein, c'est lié au fait qu'on n'a pas l'installation, on n'a pas l'information, et donc on se fait massacrer dans la rue. Dès le moment qu'il y a un éclairage public, automatiquement, il y a une activité nocturne, activité, disons, légale, agréable, positive. Et dans les autres rues où il n'y a pas d'éclairage, là, c'est là où tous les dangers sont réalisés. Donc, encore aujourd'hui, évidemment, on pourrait le penser comme ça. Alors, comment vit notre Frédéric? Eh bien, il se promène comme ça, il cherche Madame Arnoux partout, et il ne tente rien, il ne fait rien, il ne va plus à l'école. Alors ça dure quelques temps, il mange d'ailleurs assez médiocrement, pour 43 sols, 43 sous, le cachet. Alors le cachet, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais ça serait un peu comme aujourd'hui ce qu'on appelle le ticket restaurant. Hein, c'est une sorte de formule qui permet de payer moins cher dans un certain endroit, pour un menu évidemment assez pauvre. Et en même temps, il regarde tout ça avec dédain, avec mépris. Il n'est pas en accord avec cette condition, il ne l'accepte pas, mais il n'arrive pas à faire autre chose. Donc il reste coincé entre deux situations. Page 46, paragraphe en haut de la page, un remords le prit, il retourna au cours. Donc voilà une nouvelle direction, retourner au cours. Mais ça dure deux lignes. Hein. Ensuite, il se mit à écrire un roman intitulé « Silvio, le fils du pêcheur ». Alors Silvio, je ne sais pas, est-ce que c'est du Musset, du Georges Sand, quelque chose de romantique comme ça. La chose se passait à Venise, etc. Là aussi des clichés, complètement un cliché sur le roman romantique. Elle s'appelait Antonia. Et à la fin de ce paragraphe, deuxième occurrence, il n'alla pas plus loin et son désœuvrement redoubla. Ensuite, on change un petit peu, il va demander à Delaurier de venir, il essaye de rencontrer d'autres personnes, il essaye de rencontrer Sénécal, donc première apparition du nom de Sénécal, mais il n'arrive pas à le voir. On lui dit d'ailleurs que c'est une sorte de Saint-Just, donc une sorte de terroriste révolutionnaire. On verra qu'en effet, la personnalité de Sénécal sera très riche et servira d'ailleurs à Flaubert à créer un certain nombre de types de républicains. Hein, on aura, Frédéric, on ne peut pas le compter comme un républicain, mais Sénécal, Delaurier, et puis, comment il s'appelle l'autre ? Dussardier, principalement. Et surtout Sénécal et Dussardier comme opposition, et finalement Sénécal tuera Dussardier presque par hasard, encore. On y reviendra. Et puis toujours la recherche de Madame Arnoux, évidemment, au hasard, hein, page 47, sixième ligne. Il la trouverait peut-être sur son chemin et il imaginait pour l'aborder des complications du hasard, des périls extraordinaires dont il la sauverait. Donc complètement dans l'illusion. Et dernière chose pour ce chapitre, oui. Ainsi, donc page 47, hein, juste à la suite. Ainsi les jours s'écoulaient dans la répétition des mêmes ennuis et des habitudes contractées. Il feuilletait des brochures, la revue des Deux Mondes, une salle au Collège de France, une leçon de chinois ou d'économie politique. Toutes les semaines, il écrivait à Delaurier. Alors voilà, ces petites habitudes qui se sont prises malgré tout. Dînait de temps en temps avec Martinon, voyait quelquefois Monsieur de Sisy. Il loue un piano, ensuite il va au théâtre, etc., etc. Alors quand même, il revoit Arnoux, mais il se rend compte que Arnoux n'est pas avec sa femme, mais avec une autre qui était en effet celle qui sortait le jour où il y était allé. Donc il était en fait dans l'illusion que Arnoux était avec sa femme, et en réalité, c'est encore différent. Donc là aussi, c'est une illusion qui en quelque sorte disparaît. D'ailleurs, il va même craindre que Madame Arnoux soit morte, puisque, en bas de la page 47, il dit « Tout à coup, un bec de gaz l'éclaira, il avait un crêpe à son chapeau. Elle était morte, peut-être. » Alors, un crêpe, c'est-à-dire un morceau de tissu, de crêpe, c'est une forme de tissu que l'on met sur les chapeaux, par exemple un ruban autour du chapeau, donc un ruban noir. Alors, simplement, c'est un choix de couleur, c'est un peu chic, mais Frédéric va l'interpréter comme peut-être elle est morte, donc c'est une marque de deuil, hein, comme on porterait un brassard noir ou un vêtement noir, une cravate noire aujourd'hui. Et donc il va vérifier, encore d'une façon totalement ridicule, hein, au magasin, est-ce que monsieur va bien, mais très bien, et madame aussi. Bon, on passe en 1841, donc l'hiver se termina, il fut moins triste au printemps, se mit à préparer son examen, et l'ayant suivi d'une façon médiocre, partit ensuite pour Nogent. Il n'alla point à Troyes, puis à la rentrée, il abandonna son logement et prit sur le quai Napoléon deux pièces qu'il meubla. Il n'attend plus d'invitation des Dambreuses et sa passion pour Madame Arnoux commence à disparaître. Donc voilà, en un chapitre, la vie ratée de Frédéric à Paris. Et malheureusement, s'il ne se passe rien, De plus, le roman est fini. Hein, c'est même pas la peine de l'avoir commencé. Donc on imagine que, arrivé à ce point d'échec, il va nécessairement se passer quelque chose. Il ne peut pas ne pas se passer quelque chose, sinon il n'y a aucune raison, même que ce livre existe, tout simplement. Alors avant qu'on y arrive, je finis sur l'histoire du mot « désœuvrement ». Vous avez ici les occurrences, vous pouvez vérifier avec les pages. Finalement, ça prend beaucoup de temps de rechercher les pages qui correspondent au texte sur Internet. Donc, sur le site intranet, vous pouvez le faire directement, simplement en cliquant sur les mots, vous arrivez au passage. Mais ensuite, pour le retrouver dans le livre, ça peut être un peu plus long. Alors, je vous ai mis ici quelques contextes intéressants en bas de la page. Désœuvrement au sens de tristesse et, disons, de mouvement général vers le bas. Ce sont des citations que nous avons vues aujourd'hui. Ou bien la deuxième citation. Frédéric descendit l'escalier marche à marche. L'insuccès de cette première tentative le décourageait sur le hasard des autres. Alors commencèrent 3 mois d'ennui, etc., etc. Il passait des heures à regarder du haut de son balcon la rivière qui coulait. Donc on a mouvement vers le bas, là encore, regarder l'eau qui coule, associé à l'ennui et à la tristesse. Désœuvrement au sens de disponibilité ou de hasard, ça pourrait être un sens positif. C'est-à-dire, vous n'avez rien à faire, vous vous installez à la terrasse d'un café et vous profitez de la beauté, de la tranquillité, de la vue sur les passants ou sur n'importe quoi. Ça peut être une attitude très positive. Il s'arrêta devant le théâtre de la Porte-Saint-Martin à regarder l'affiche et par désœuvrement prit un billet. Pourquoi pas ? Allons au spectacle. Alors bien sûr, pas aussi positif que ce que je disais à la terrasse du café, parce que là, aller au théâtre, hein, ça ou autre chose, finalement, c'est pareil. Ennui, alors désœuvrement peut être associé au mot ennui, peut être associé à d'autres mots, mais par exemple au mot ennui, qui a beaucoup plus d'occurrences ici que j'ai rassemblé, avec tous les mots de la famille, également le verbe ennuyer. Ennui et impatience peuvent s'associer bien sûr, de même que ennui et habitude, donc une sorte de presque de contradiction. Et puis, je vous ai mis en dernier, finalement, ce qui serait le contraire de désœuvrement, c'est-à-dire le travail, l'activité. Le travail peut être vu dans différentes citations, là aussi il y en a pas mal, comme excitant ou comme calmant. Alors, le travail comme excitant, il acheta les poètes qu'il aimait, des voyages, des atlas, des dictionnaires, car il avait des plans de travail sans nombre. Il pressait les ouvriers, etc. Donc c'est l'activité comme ça, surexcitation, qui évidemment s'épuise en quelques heures ou en quelques jours. Hein. Et page 235, une expression, la sérénité du travail l'apaisa. C'est une belle expression et je voulais reprendre à la page 235 pour finir. Voilà, donc c'est beaucoup plus tard, on est dans la deuxième partie du roman, Frédéric a la même nature, hein, bien évidemment, mais bon, il a un petit peu avancé dans la vie. Il tâchait d'entendre Machiavel, c'est-à-dire de comprendre, hein, de lire. Peu à peu, la sérénité du travail l'apaisa. C'est assez positif, hein, comme mention. En plongeant dans la personnalité des autres, il oublia la sienne, ce qui est la seule manière peut-être de n'en pas souffrir. Alors ici, une remarque, à mon avis très importante, capitale, pour comprendre la psychologie des personnages chez Flaubert, mais peut-être aussi Flaubert lui-même, et toute la dimension de ce qu'on appelle, depuis déjà plusieurs siècles, 4 ou 5 siècles, la mélancolie. Qu'est-ce que c'est la mélancolie ? C'est quelque chose qui arrive à des gens qui ont les moyens, qui ont la possibilité de la mélancolie. Pour aujourd'hui, ça serait différent. Hein, je ne parle pas des problèmes d'aujourd'hui. Mais disons qu'un paysan, un ouvrier, n'a pas spécialement de mélancolie. Il a du travail et il a de la fatigue. En revanche, si on a les moyens de ne rien faire, c'est-à-dire du désœuvrement, la mélancolie est une pente possiblement fatale. Et énormément de romans, à partir du XVIIe siècle, traitent de la mélancolie. Bon, je vous renvoie à Burton sur la mélancolie, évidemment. Mais ici, donc, qu'est-ce que c'est le moyen, peut-être, d'éviter la mélancolie? C'est de s'oublier dans l'activité, dans le travail de quelque chose. Donc, est-ce que c'est une façon pour Flaubert aussi? J'ai mis dans mon blog, ou bien vous pouvez trouver sur le site de France Culture, une émission d'il y a 2 semaines avec Pierre-Marc de Biasi, qui est un grand spécialiste de Flaubert, et qui vient de sortir un livre qui s'intitule Flaubert, une manière de vivre spéciale, une étrange manière de vivre. Bon, le titre est comme ça. Et il participait à cette émission qui s'appelle l'atelier littéraire de dimanche, donc il y a 2 semaines. Voilà. J'ai mis un lien dans mon blog à samedi dernier, donc vous pouvez aller directement à l'émission ou bien la chercher sur le site de France Culture. Vous tapez dans Google « Atelier littéraire » et « De Biasi », vous allez tomber dessus tout de suite. Et De Biasi explique bien à propos de Flaubert, hein, sa façon de vivre, on ne peut pas dire sa méthode, sa façon de vivre, mais à quel point le travail de l'écriture était important et que si Flaubert n'avait pas écrit, il serait devenu complètement fou ou débile mental ou autre chose. Alors bon, si c'est De Biasi qui le dit, je peux le répéter, moi-même je ne me serais pas permis, mais de cette façon c'est assez clair. Voilà pour aujourd'hui.